Le journal, Josette Sédou, bonjour.
Bonjour, le lait voit sa courbe de consommation grimper avec des augmentations de 30% sur certains produits. Vous entendrez un producteur de la région qui est aussi vice-président de la Fédération laitière nous dire pourquoi il faut prendre ces tendances avec des pincettes. Vous entendez leurs réactions, leurs points de vue politiques, leurs analyses sur notre antenne. Mais est-ce que vous connaissez les parlementaires fédéraux sous un jour plus décontracté ? Nos correspondants à Berne vous proposent une série sur les vacances des élus. Les choses sérieuses ont recommencé pour le HC Bienne. Le premier entraînement officiel sur glace s'est déroulé ce matin. On vous relate l'ambiance de cette reprise dans ce journal. Et météo, beaucoup de nuages dans le ciel cet après-midi. Un temps plus ensoleillé un petit peu plus tard en perspective, avec une atmosphère venteuse. Des températures qui remontent légèrement en journée. On attend jusqu'à 25 degrés en plaine, 22 dans les vallons et 15 sur les crêtes. La branche laitière suisse connaît un retournement de tendance réjouissant. Après des années de stagnation de la consommation, le lait revient en force auprès de la population suisse. Les producteurs surfent sur une tendance au mode de vie sain de certains consommateurs. C'est ce que nous apprend un communiqué de presse des producteurs suisses de lait. Ces dérivés engendrent une augmentation, 30% pour le serré, plus de 23% pour le cottage cheese et 9,5% pour la mozzarella suisse par exemple. Des résultats réjouissant, mais qu'il faut prendre avec des pincettes, d'après Roger Gross-Niklaus, producteur de lait à Escher et vice-président de la MIBA, la Fédération laitière du Nord-Ouest de la Suisse.
J'espère que ça continuera à évoluer en 2025 et les années suivantes. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi il y a eu un peu une augmentation. Est-ce que c'est dû à la mauvaise météo qu'on a eue durant toute l'année? Est-ce que les consommateurs suisses ont un peu plus consommé de lait? C'est possible. Mais j'espère que ça continue dans cette tendance, mais je reste prudent.
Pourquoi cette prudence?
Eh ben, on voit déjà, apparemment, sur les trois premiers mois, il y a déjà 2,4% de moins de consommation par rapport aux trois premiers mois de 2024. Et après, les habitudes changent tellement rapidement. Au niveau consommation, ben ok, c'est très bien, mais ce qui ne joue pas actuellement en Suisse, c'est le prix du lait payé aux producteurs.
Car si la consommation de produits laitiers augmente, la rémunération des producteurs, elle, continue de stagner. C'est ce qu'a rappelé Roger Gross-Niklaus au micro d'Estelle Hermann. À noter aussi que les chiffres suisses prennent aussi en compte les aliments importés. Et on parlait du lait. Et bien à présent, focus sur une étape de la production laitière, le moment de l'estivage. C'est le thème de l'épisode du jour de notre série d'été. Aujourd'hui, rendez-vous au Pré-la-Patte sur le Monteau, en dessus de Péry, à 1100 mètres. Une centaine de vaches broutent au calme. Mais la nuit, parfois, c'est une autre histoire. L'été rime avec orage et foudre. Jeanne Hering, agricultrice et bergère, responsable des bêtes en estivage.
Alors à l'époque, il y avait beaucoup plus de bêtes en estivage et en guillemets, les enfants avaient moins de valeur que les vaches. Donc ils devaient vraiment rentrer toutes les genisses en cas d'orage jusqu'à la dernière, quitte à se mettre en danger.
Les enfants avaient moins de valeur que les vaches?
Ouais, bah, c'était un peu ça. S'ils avaient 12 ou 15 enfants, c'était plus important que les genisses soient dedans que les enfants, quoi. C'est un peu ce qu'on a entendu dans les témoignages de gens qui ont habité ici, quoi. Et puis maintenant, c'est le contraire, quoi. Nous, on ne va pas se mettre en danger pour les rentrer. C'est un risque, c'est vrai, et les paysans le savent. Et puis, ça peut arriver. Ces dernières années, il faut toucher du bois, c'est pas trop arrivé. C'est arrivé que la foudre tombe sur des sapins ou des arbres, mais il n'y a pas eu de bêtes foudroyées. Mais c'est déjà arrivé que sous le même sapin, il y en ait 12 tuées. Et elles sont tuées sur le coup, quoi. En général, ça ne pardonne pas, quoi. Si elles reçoivent la foudre, en général, c'est radical.
Donc là, par exemple, il y a des vaches qui sont un peu sous un sapin. Elles se regrouperaient facilement sous un sapin en cas d'orage parce qu'elles ont peur. C'est là que c'est dangereux?
Alors, pas forcément qu'elles aient peur. Je ne crois pas que ça les inquiète spécialement. C'est surtout, elles se protègent de la pluie ou des vraiment fortes intempéries. Et puis, ben, automatiquement, les sapins, c'est ce qui protège le mieux. Et c'est là qu'elles se font foudroyer. Mais parfois, ça nous est aussi arrivé que des vaches soient foudroyées, pas sous un sapin, mais on s'est dit peut-être que c'était les racines. Certains sapins, ils ont des racines qui vont très loin et qui avaient conduit l'électricité, entre guillemets, jusqu'à la vache, quoi.
Vous, ça occupe votre esprit, vous y pensez? Quand il y a de l'orage, vous êtes inquiète?
Plutôt pour les chevaux, honnêtement. Les vaches, ben oui, c'est clair, je les aime beaucoup, elles sont gentilles, etc. Mais alors, c'est sûr, s'il y a un orage, je me lève en général à 5-6 heures dès que c'est fini. Et puis, je vais faire le tour, voir si tout le monde va bien. Si possible, avec la liste, justement, pour cocher chaque bête et puis être sûre qu'elles soient toutes là. Mais je dirais pas que ça m'empêche de dormir.
C'était Jeanne Hering pour notre série d'été, agricultrice et bergère responsable des bêtes en estivage au Pré-la-Patte en dessus de Péry. Un incendie s'est déclaré dans une maison à Grandval vendredi soir à côté de l'école primaire. L'alerte a été donnée aux alentours de 21h par un passant. Les flammes ont été maîtrisées par les pompiers du Cornet. Aucun blessé n'est à déplorer. La police cantonale bernoise ouvre une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. L'avenir de l'entreprise Novi questionne au Genevais. Le transfert d'une quarantaine de postes de travail dans d'autres usines du Swatch Group, annoncé fin juillet, a créé un certain flou quant à l'affection future du site, tant auprès des employés que des citoyens du village franc-montagnard. Alors que certains redoutent une fermeture, le groupe horloger assure qu'il n'en est rien. On écoute les précisions de Cyprien Lovi.
Le site des Genevais ne va pas du tout fermer. C'est fermement la réponse écrite donnée à RFJ par le service de presse du Swatch Group. Pour lui, le transfert de la quarantaine d'employés à Boncourt et Villeray est limité dans le temps et sert à optimiser les capacités de production dans le cadre d'un programme interne appelé Mobility. Programme qui permet d'envoyer, de façon temporaire, des employés d'une usine en baisse de travail vers une autre qui en a beaucoup. Un discours que certains peinent à croire au Genevais, craignant une fermeture pure et simple d'une usine qui a petit à petit vu ses effectifs se réduire lors de la dernière décennie. Parmi les sceptiques, les autorités que l'entreprise n'a pas contactées. Le maire des Genevais, Anaël Lovi.
Pour une commune qui est historiquement industrielle, de savoir qu'il va y avoir 40 employés, voire plus, qui pourraient quitter le site, c'est inquiétant. Et puis c'est sûr que pour nous, qui voulons maintenir des emplois et puis des gens au village, un village attractif et actif, c'est particulier à prendre. Oui.
Il y a des bruits de fermeture, le Swatch Group dément en disant non, on ne va pas fermer, les employés reviendront en utilisant le futur. Vous croyez à ce discours ?
Alors j'espère que je peux y croire. En tout état de cause, c'est ce que le Swatch Group a annoncé. Donc j'imagine que dans les prochaines semaines, je vais prendre contact avec eux pour discuter un peu de tout ça.
Discuter pour comprendre et tenter de convaincre, la mission que se donne le maire des Genevais. À notre rédaction, le service de presse du Swatch Group a assuré que les employés retourneront sur un site inchangé, refusant toutefois d'en préciser la notion de temps.
Et dans l'actualité nationale, le bloc 2 de la centrale nucléaire de Bensnau est à l'arrêt depuis le 1er août. Il le sera pendant environ 8 semaines pour révision. L'exploitant Axpo procède comme prévu à d'importants travaux d'entretien et d'inspection de l'installation. Les travaux portent principalement sur des contrôles de la cuve de pression du réacteur et sur les grands composants du circuit secondaire. Après le coup de massue douanier de vendredi, la bourse suisse est ébranlée ce matin. Vers 7h, juste après l'ouverture, l'indice vedette suisse SMI perdait 2,18%. Les marques horlogères sont en recul modéré. Les titres Swatch et Richemont ont fait les frais ce matin des droits de douane de 39% annoncés par Donald Trump, mais de manière plus modérée qu'attendue. La majorité des experts sont d'avis que les droits de douane vont diminuer et ne seront pas définitivement à hauteur de 39%. Et le Conseil fédéral devrait se réunir aujourd'hui pour une séance de crise virtuelle, selon plusieurs médias, mais aucune confirmation de la part de la chancellerie fédérale ou des départements fédéraux n'est disponible pour le moment. Où est-ce que les parlementaires fédéraux partent en vacances et comment choisissent-ils leur destination? Cette semaine, nos correspondants à Berne vous proposent de partir en voyage avec 5 élus fédéraux. Le Valaisan Philippe Nantermo siège au Conseil national depuis 2015. Cet été, il a décidé de rester dans son canton. Il passe ses vacances dans son chalet à Morgin. Philippe Nantermo a 2 enfants en bas âge, du coup, il choisit ses destinations de vacances en fonction de leurs besoins. On l'écoute.
Le plus petit maintenant, il a 8 mois, donc j'ai encore pas trop d'expérience de vacances avec lui, mais il faut choisir des endroits qui se prêtent, où les enfants peuvent s'amuser, il y a des choses à voir, mais qui sont pas trop lassantes pour les petits. Donc c'est le critère, je pense, de toutes les familles avec des petits-enfants.
Et du coup, de préférence, vous restez en Suisse ?
Bon, pas forcément. C'est vrai qu'en été, en hiver, j'aime bien rester en Suisse parce que j'aime bien skier l'hiver. Et l'été, la montagne est agréable au niveau de la météo. Puis hors saison, ça m'arrive d'aller un peu plus loin, mais plutôt en Europe. Et c'est la deuxième année de suite qu'on reste en Suisse l'été. Puis on partira, je pense, cet automne.
Des propos recueillis par Marie Vieumier. Philippe Nantermo aime aussi voyager hors de Suisse, mais pas trop loin. Il préfère rester en Europe.
Il est 12h25.
RJB Sport.
Les choses sérieuses ont commencé pour le HC Bienne. Le premier entraînement officiel sur glace s'est déroulé ce matin devant une petite quinzaine de spectateurs. Notre journaliste Loïc Georgi a eu l'occasion d'y assister.
Le groupe a bien répondu à l'appel ce matin. Si le premier entraînement sur glace n'est jamais le plus facile et le plus qualitatif, on peut dire que celui de ce matin était de bonne volée avec une équipe volontaire et déterminée. De quoi proposer une bonne intensité. Preuve à l'appui, il a fallu refaire la glace après moins d'une heure d'entraînement. L'ambiance était d'ailleurs très bon enfant, avec des sourires sur toutes les lèvres. Et concernant les joueurs, eh bien, il n'y a pas eu de surprise majeure. Les nouveaux étaient bien présents. A noter aussi la présence de Gaëtan Haas, qui s'est entraîné normalement avec le groupe, vêtu de sa visière teintée. Jérémy Berchi était également au rendez-vous.
Et Billy Herb conserve sa couronne nationale. Le pilote de notre région a été titré hier champion de Suisse de buggy, ces petites voitures tout-terrain très légères. La course a lieu à Massenan en France voisine. Billy Herb est ainsi couronné champion national pour la troisième année consécutive. Nouveau défi africain pour Raoul Savoie. Vendredi, on apprenait que l'ancien entraîneur de Neuchâtel Xamax a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de football du Tchad, un peu moins d'un an après son départ de la sélection de Centrafrique. Le technicien vaudois a eu d'autres offres, mais c'est le potentiel du football tchadien qui l'a séduit. On écoute Raoul Savoie.
Il y a une grosse envie, donc je dirais un potentiel dynamique au niveau du gouvernement, de la fédération, un nouveau stade qui a été inauguré il y a quelques jours, un magnifique écrin, et puis un potentiel joueur, non seulement au niveau local, et aussi pas mal de joueurs à l'extérieur, un peu partout dans le monde, en Europe aussi, qui ont vraiment des qualités et qui demandent qu'à briller au niveau international. Comme on l'a fait pour la Centrafrique, comme j'avais fait pour la Gambie ou le Swaziland à l'époque, pour paraphraser notre cher Zlatan Ibrahimovic, c'est poser le Tchad sur la carte du monde du foot. Voilà, ça c'est très important parce que ça nous apporte ensuite une dynamique et une facilité après dans l'approche des matchs. Le Tchad était une équipe il y a quelques années importante dans la région centrale de l'Afrique et ensuite il y a eu quelques difficultés. Maintenant il faut la remettre au milieu de ce tableau et ensuite avec ça décrocher ensuite des succès importants et avancer dans la hiérarchie africaine et mondiale du football. Voilà.
Dernier de son groupe dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Tchad ne se fait plus d'illusions et veut maintenant préparer les qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et toujours en football, le FC Bâle est fixé sur son sort européen. Les Rennais affronteront les Suédois de Malmö ou les Danois du FC Copenhague en barrage pour accéder à la Ligue des Champions. Le match aller aura lieu le 19 ou bien le 20 août. Le match retour se jouera une semaine plus tard. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à vous.
RJB Sport.